Voilà, on va parler de la vie de Rabbi Mordechai Sha'arabi Zecher Tzadik de Kadosh Livracha, puisque ce soir, Yom Kaf Cheshban, c'est sa Iloula, le jour de sa Ptira. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle, dans la yeshiva de Nar Shalom, ils font une grande kinouche dans la souka de Beit HaMidrash, puisqu'ils ont maintenant une souka, ils peuvent recevoir plein de gens. Et il y a de nombreux invités là, parce qu'il y avait un grand kavod que les Sfaradim de chasse ont l'habitude de faire à Rav Mordechai Sha'arabi. C'était Rav Ovadia Yosef et Rav Mordechai Sha'arabi, ils étaient très très proches l'un de l'autre, très très proches. Alors j'ai trouvé dans le site de Nar Shalom un petit résumé, on va pas tout faire évidemment, mais ça nous donne la grandeur de voir comment cette tzadikim se comportait. Même si on est à des années-lumière de leur comportement, mais aussi au moins pour nous donner une idée de ce qu'on appelle un tzaddik mamash.
Ce qu'il nous reste à faire.
Voilà, ce qu'il nous reste à faire. Et Dieu sait combien il nous en reste. Mais à cause de qui nous aide. Donc il faut savoir que Rav Mordechai Sha'arabi, il est né Shnat Ta'rav. Tav Ain Reshbet. Alors je ne sais pas en. Je sais même pas, j'ai même pas calculé en termes en français, ça fait Tar'av. Oui. Tar'av, ça fait 5000.
1600.
672. Ça fait, il a 105 ans. Il a 104 ans.
104 ans. On est en 2015.
Il est né en
1910. 1910.
Il était contemporain de Ben Ish.
Mon père était plus âgé. 1905.
D'accord.
Il a dit à sa femme, il n'a pas eu d'enfant, lui.
Non, il n'a pas eu d'enfant.
Mais lui, il a dit à sa femme d'aller voir Hazon Ish.
Oui, on va en parler. On va en parler. Alors, il dit comme ça. Il dit, il est né dans la ville de Sha'av, en Théman, donc c'était au Yémen. Et il est né, son papa, il s'appelait Rabbi Yehuda Sha'arabi. Et il a appelé son fils Mordechai. Toute la vie de son père, c'était de s'occuper de la Torah, Avodat Hashem. Il étudiait la Torah, Bechokhmato, Bikdushato. Seulement, malheureusement, le père de Rav Mordechai, Rabbi Yehuda, est décédé très très vite après la naissance de Rav Mordechai. Ce qui fait que Rabbi Mordechai était yatom, était orphelin. Pratiquement dès sa naissance. Et 2 ans après la ptira de son papa, Rabbi Yehuda, est décédée sa maman, et ce décès a eu lieu chez Ishel Pessah, le 8e jour de Pessah. Donc, Rabbi Mordechai Sha'arabi, il avait une sœur, lui et sa sœur sont partis vivre dans la maison de leur grand-père, qui était un grand chassid des Kadosh. Dans sa jeunesse, il a profité de la Torah Kedusha de son grand-père qui s'appelait Rabbi Yefat Avraham Ta'azi. Et il a profité, c'est pour ça qu'il a été également béni par cette présence de son grand-père, puisqu'il était très proche, son grand-père, d'un grand Mekoubal connu en Théman, à Théman, en Yémen, qui s'appelait Rabbi Chaim Sin ou Ani. Un grand, grand tzaddik. Il y a des sfarim qui rapportent ses nissimes, des niflottes.
Qu'est-ce qu'il y a de Rav Shalom Sha'arabi par rapport à cette rabbi? De Rav Shalom Sha'arabi.
Par rapport à Rabbi Chaim, Nouani?
Bimol Chaim.
Quelle famille?
Tout de suite, c'est de Sha'arabi.
Ah, par rapport au Rachash? Par rapport au Rachash, il n'y a pas de lien. Même s'ils ont le même nom, mais il n'y a pas de lien apparent. Peut-être qu'il y en aurait un, mais on aurait pensé. Moi aussi, je pensais au début, mais apparemment, non.
Son père et sa mère sont décédés le 7e jour de Pessah, à 2 ans d'intervalle.
7e jour, bon, là, il marque 8, Shmini Shel Pessah.
Mais le père et la mère.
Ouais. Ah non, t'as raison, Shmini Shel Pessah, pardon. Shmini Shel Pessah. D'accord? Il a étudié avec ce grand Gaon, Rabbi Chaim, pendant 2 ans. Au Bekar, Alav, il est allé, c'est pour ça qu'il est devenu, il a eu ce profil extraordinaire de monter dans la Torah. Alors qu'il était encore très jeune, il avait à peine 8 ans, ils l'ont déjà repéré, les Chochmé Miteman, et ils lui ont demandé de donner des shiurim à des gens qui étaient encore plus grands que lui. Rabbeinu Limad, Talmud Babli, il a étudié le Talmud Babli à cet âge-là, Talmud Torah Betema, dans un Talmud Torah qui était là-bas au Yémen, et il avait des élèves. Déjà à l'âge de 8 ans, il y avait une centaine d'élèves qui l'écoutaient. Et il faisait les choses, ces choses étaient tellement appréciées que même les gens qui n'avaient pas besoin de son enseignement venaient l'écouter pour clarifier leurs connaissances. Et les gens buvaient de son savoir. Et quand il était plus âgé, Rabbi Mordechai Sharabi, il parlait de sa jeunesse et disait, j'avais honte, je donnais des shiurim à des gens qui étaient beaucoup plus grands en taille et en âge que moi. Dans un de ses shiurim, Rabbeinu Mordechai a expliqué que le jour de sa dracha de Bar Mitzvah, le jour où il a fait sa Bar Mitzvah, il a été d'Oresh, il a fait une dracha devant les rabbanim de sa ville, et il a cité B.A.L.P. oralement, en expliquant chacune d'elles les 70 sortes de tréfotes qui existaient dans la cacheroute. B.A.L.P. Tréfotes, c'est-à-dire les signes qui rendent invalide à la cacheroute une bête. Il y en aurait 70. Et il les a expliqués, c'était sa dracha de Bar Mitzvah. Avec une clarté et avec des explications au point où quand ils ont entendu ça, il n'avait même pas 15 ans. Il avait 13 ans à peine. Hein? Et donc, ils l'ont repéré et ils ont dit, celui-là, on va le nommer responsable de la cacheroute de la ville. En connaissant, en voyant sa clarté d'esprit, en voyant, ils étaient sûts qu'ils avaient trouvé la bonne personne. Quand il est arrivé à l'âge de 15 ans, il a été nommé comme responsable communautaire de sa ville parmi tous les Chochmé Sha'arav, donc de la ville, là où il habitait. Et il connaissait quasiment B.A.L.P., Arba Aturim, Mishne Torah du Rambam, et il a eu sa Rabbanout parmi tous les Chachamim de la ville dans laquelle il vivait. Toutes ses connaissances étaient B.A.L.P. Au point où on dit que lorsqu'il étudiait, sa technique, c'était de réviser, de préparer 60 fois une sugya avant le cours et de la répéter 60 fois après le cours. Ce qui fait que lorsqu'il arrivait au shiur et que le rav disait quelque chose, il le corrigeait. Il dit, non, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué comme ça. Parce que tellement il avait préparé le shiur qu'il connaissait mieux que le rav exactement comment c'était marqué dans les sfarim. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de se marier, il s'est marié avec la rabbinite Léa. Comment ça s'est passé? Souvent les gens de Sha'av, cette ville-là, ils avaient l'habitude d'aller dans une autre ville pour aller trouver une femme. D'accord? Et sur le chemin, on devait traverser une ville qui s'appelait Atsucha. Et à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui lui a proposé un shidour. Il lui a dit, tu veux pas, il y a un shidour, pas bien d'aller jusqu'à là-bas. Regarde, il y a quelqu'un de très bien, une famille du Rav Amekoubal, Rabbi Zecharia Ben Saadia, Moudahi, Zatzal. Alors le Rav, il a dit, bon, Ashgacha Pratit, je suis parti pour ça. Alors j'allais bêtement là-bas, alors que peut-être que mon mazal, il est venu vers moi. Et il a été très épris de cette rencontre. Et ils ont conclu le shidour. La rabbanite, elle avait à l'époque 9 ans. Il dit pas ici à quel âge exactement. Mais bon, je pense qu'il devait avoir 17, 15, entre 15 et 17, des choses comme ça. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam shehakol yamidvaro. D'accord? Gama Rabbani Maïta Yetoma Mehama, et en plus de ça, ça collait, malheureusement, ça collait bien dans le sens où l'Arbanite avait perdu sa maman, également très très jeune. Et elle s'est fait appeler au nom de sa mère. Léa, c'était sa maman. Comme elle est Niftéret, ils ont donné le nom à la fille qu'elle avait mis au monde en dernier, C'est pour ça qu'on l'appelait Léa. Rabbi Mordechai Sharabi avait une grande envie depuis longtemps d'aller habiter en Eretz Israël. Toute sa vie, il attendait et il priait pour qu'il soit zoché de monter et de se ramener sur la poussière de la terre d'Eretz Israël. Et Baruch Hashem, son vœu s'est réalisé. Tout de suite après, pas loin du temps après avoir fait les Nisouim, ils sont restés très peu de temps dans leur ville, à Sharab, et ils sont partis. Le problème, c'est que pour partir de Yémen à l'époque, c'était très compliqué. Il y avait une interdiction de traverser d'un pays à un autre. D'accord, c'était interdit. Ceux qui se faisaient attraper, ils étaient tout de suite mis en prison, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé toutes leurs affaires à la Makom. Ils ont laissé même des veilleuses, des petites bougies allumées la nuit exprès pour que les autorités ne sachent pas qu'ils sont partis. Et ils ont marché, ils sont arrivés, ils ont traversé des contrées et des contrées jusqu'à arriver en Eretz Israël. Ils ont pris un bateau et ils sont partis. Dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, la première chose qu'il a fait, il a embrassé la terre d'Eretz HaKodesh. Il est arrivé au port de Yafo, Yafo Atika, et il s'est dirigé dans la ville de Rehovot au début. Et quand il est arrivé, on cherchait des jardiniers dans la ville de Rehovot. Et lui, il s'était mis dans la tête en partant de Théman qu'il voulait absolument planter des arbres, 10 arbres fruitiers en Eretz Israël. Il s'était mis en tête cette mitzvah de Netnotéa, 10 arbres fruitiers. Le lendemain qu'il est arrivé, on lui a proposé ce travail. Il s'est retrouvé jardinier comme par hasard. Il a dit, quelle aubaine, je vais en profiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un lopin, un endroit où on lui a dit de faire des choses. Et là, il coûtait rien du tout. Il a pris tout plein d'arbres fruitiers et il a planté 10 arbres fruitiers. Quand le responsable Shomer Haïr est arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, non, ça fait longtemps que j'attendais ce moment de planter les 10 chirotes. Béret Israël, il a commencé à parler de Kabbalah, que ses arbres, Ilan, ses Gematria, il a commencé à rentrer dans les choses un petit peu profondes de la Torah. Quand il a écouté le responsable, il a dit celui-là, il est fou, je le dégage de ma société, il va me faire des catastrophes. Et tout content d'être licencié, parce que son but c'était uniquement de planter. Une fois qu'il avait planté, il avait gagné. Et c'est là où il est parti. Et il est parti à Yerushalayim. C'est là où il a commencé. Exactement. Il est arrivé à Makom, à Yerushalayim même, et sa première idée, c'était de rencontrer les Chachamim qui se trouvaient à Beth El Mikubalim. Il voulait avoir affaire avec les Mikubalim d'Eret Israël. Avant cela, évidemment, il a trouvé un makom pour dormir, etc., qui était une cour, une simple cour. Cette cour, aujourd'hui, c'est devenu sa maison. Et cette maison, aujourd'hui, c'est devenu la yeshiva de Nahar Shalom.
De qui?
Nahar Shalom, c'est là où... c'est un des rares endroits où on fait les shloshat et filot, tout Alpi Arizal avec les kavanot. De A jusqu'à Z. Fila, Mincha, Shachrit, Arvid, Birkat Ha'ilanot, Bedikat Hamesh, Shira Shirim. Tout est fait à Alpi Kabbalah. Rien n'est fait. Même les mitzvot, Lulav, Etrog, tout Alpi Sot. Là-bas, les gens, quand ils prennent un café, ils font les kavanot. C'est la volonté, ça a été la volonté de A. Mais avant, ils venaient d'arriver à cet endroit-là, derrière Machane Yehuda. Et lorsqu'il est arrivé, la première volonté, c'était donc, comme je vous ai dit, de rencontrer les Chachamim de la Yeshiva de Beth El Mekoubalim. Et il a senti qu'on l'aidait à arriver à cette Matara. Il a été pris avec eux à Shacharit, il a marché jusqu'à Beth El. Et il a rencontré Hatid Akadosh Rabbi Shalom Adaya, qui était le grand Rosh Yeshiva à l'époque de Beth El Mekoubalim. Entre autres, il a également vu dans la Yeshivot Rehovot Anahar un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shalom Doek HaKohen. C'est celui qui a écrit le Efa Shelema que vous avez ici. D'accord, le Pirouche du Ephraïm, du Otro Ephraïm, un grand Mekoubad qui a illuminé de son commentaire qu'on appelle le Sadé. Après la ptira de ce grand tzaddik avec lequel il a étudié beaucoup, il a été se réfugier dans un autre Beta Knesset qui s'appelait Magen David, qui était dirigé par le fils de Rabbi David à Cohen, Dawik, Chacham Shaul David à Cohen, qui s'appelait Rabbi Eliaou David, c'était son fils. C'était à l'époque de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et il a étudié là-bas dans de nombreuses années. Il a fait connaissance avec un autre grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yaakov Lopez. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ils ont vu que Baruch HaShem, le Ramon Dechai Sharabi, se débrouillait très bien. Il a voulu ouvrir à son compte une yeshiva qui s'appelait Nahar Shalom, un endroit où il désirait à ce que l'on fasse les tchilotes, comme je vous expliquais, tout avec les kavanotes. Le problème, c'est qu'il y a eu à un moment donné une perte, et très peu de gens étaient makpides de faire la tfila avec les kavanotes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? De justesse, il a été formé des Mekoubalim en Eretz Israël pour qu'il puisse faire les tfilotes avec les kavanotes. Comment il a fait? Ça, j'ai entendu, c'est pas écrit là, mais j'ai entendu sur place. Il est parti dans le chouk de Machane Yehuda. Il a rassemblé, il a vu les têtes sympathiques. Il a regardé les visages. Et il a dit, toi, 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 toi et toi, vous arrêtez votre travail, vous venez au Beit HaMidrash, et à partir de demain, vous commencez, on va étudier ensemble, je vais vous enseigner les kavanot. Il a vu en eux une capacité. Et Baruch HaShem, depuis ce jour-là, il a, on peut dire, quasiment sauvé la connaissance, la yédia dans les kavanot et toute la avodat à Kodesh de Mekoubalim, de faire les mitzvot avec la Mahashava et les kavanot du Ari HaKadosh et du Rachash, Zichrono Livracha. Cette yeshiva, elle s'appelle Nahar Shalom, donc au nom du livre qu'a écrit...
Il a rapport avec le Rachash?
Qui ramène Rachash Arabi, non. On pourrait croire par son nom, mais c'est pas non. Mais par contre, tout est mevoussas, tout a été basé sur les kavanot du rachash, évidemment. C'est, rien ne sort du rachash dans cette yeshiva de Nahar Shalom. Comment ça se passait? Le Seder Hayom dans sa yeshiva, Rav David Baruch, il en avait parlé, mais c'est encore marqué ici. Chatzot Laila, tout le monde au Beit HaMidrash. Après, il faisait Tikkun Chatzot, après Tikkun Chatzot, ils démarraient l'imoud Otsrot Chaim, ils étudient le Etzraim. Jusqu'au matin. Un matin, ils commençaient la tfila avec les kavanot, il y en avait pour 2h30. Une fois qu'ils avaient terminé ça, ils démarraient pour étudier le Tour Bet Yosef Shulchan Aruch Rambam. Le Rav Mordechai Sharabi était très très makpid sur l'apprentissage de la halakha dans le Tour Shulchan Aruch. Et c'est vrai que, je ne sais pas ceux qui ont eu cette chance de pouvoir étudier dans le Tour Shulchan Aruch Bet Yosef, hein, Rabbi Shalom, c'est d'une clarté, c'est extraordinaire. Et on ne peut pas l'oublier après la halakha. Parce que celui qui apprend dans le Bet Yosef, même s'il n'a pas fait, il faut faire, mais même s'il n'a pas fait les sugyot dans la Gemara, c'est tellement bien expliqué, tellement barour, tellement clair, qu'on ne peut pas oublier la halakha. Après, quand on le regarde dans le Shulchan Aruch et le Mishnah Brura ou Be'er Etev, on comprend clairement les choses. Pourquoi? Parce que ça a bien été mis, et lui, il a mis le paquet pour cet anonyme, il leur a fait comprendre.
Il dormait quand?
Alors, souvent, le CDR, c'était qu'ils se couchaient très tôt, ces gens-là. Ah. Dès 7 heures, ils étaient au lit. Donc, ils décalaient leur temps pour pouvoir être effectifs durant la nuit et toute la journée qui suivait. Mais après, ça n'arrêtait pas. Hein. Il y avait des CDR, des Darim de Limoud, des Tarkanot, des Tikkunim, ils faisaient des Ichudim. Toute la journée, c'était...
Quels étaient les moyens financiers?
Ils avaient, et puis je vais te dire, c'était pas l'école allemande d'aujourd'hui, c'est des gens qui vivaient, moi j'ai vu, encore aujourd'hui, il y a un tzaddik là en ce moment, Rabina, qui est un Nahar Shalom, qui s'appelle, un des anciens, il s'appelle Rabbi Chaim Khoury.
Khoury?
Khoury.
Ça ne tient bien, ça?
Non, Uri, oui, Uri, ça s'appelait. Je pense que ça doit être un ouais, de Tunisie, Mistama.
Oui, si j'ai rien.
Et alors vous savez, si vous voyez ce qu'il mange la journée, vous allez rire.
Du carreau.
Son kiff, c'est les murs du Beth Amidrash. Il est en petite chemise, comme ça, tout simple. Et il est heureux, il est heureux. Il faut le voir, il est méchaïr, il fait rire tout le monde. Et il mange quoi? Le matin, il va chercher quelques légumes frais, avec une petite pita et trois petits gâteaux avec un café. C'est terminé. Il n'a pas besoin de plus. Ça lui dure jusqu'à 2-3 heures. Il prend une petite collation à midi, et puis c'est terminé. C'est des gens qui n'ont pas besoin de besoins matériels.
Il est marié, il a des enfants?
Oui, il a des enfants.
Alors?
Dis-lui, il veut savoir comment il gagne sa vie.
Il est âgé maintenant.
Hein?
Il est âgé, mais aujourd'hui, les enfants et les enfants de l'époque, c'était pas les mêmes budgets.
Aujourd'hui, comment?
La bourse, elle a augmenté depuis.
Il vivait pas les donations des personnes qui venaient demander une ségoula, et que eux, ils faisaient le travail de tikkun, de ce qu'il avait besoin à la personne, pour obtenir ce qu'elle voulait, en contrepartie, eux, ils payaient.
Bien sûr, extraordinaire. C'est normal.
Mais, j'ai lu dernièrement la vie de Rabbi Meir Abou Hassan. Rabbi Meir Abou Hassan, quand quelqu'un est venu, à la Macron, il lui donnait ce qu'il avait besoin. Et un témoin, quelqu'un qui a côtoyé beaucoup, c'est un Ashkenaz, il a dit, Rabbi Meir, il est rentré dans le champ de la chambre de la personne. Il pouvait faire le livre des morts.
C'était le fils.
Parce que quelqu'un
de Baba Salé
est venu lui devoir dire que son père était malade comme ça et comme ça. Il dit, pourquoi t'es pas venu? À chaque fois, il était comme ça. Alors, une fois que c'était fini, tout ça, il était décédé. Celui-là, l'Ashkenaz, qui était proche des années, il était le voir. Il dit, il faut pas dire ça comme ça. Tu aurais dû venir parce que Rabbi Meir est capable de faire le livre des morts. Il avait le pouvoir de rentrer. Mais, je crois que tout ce qu'il faisait, Rabbi Meir, on lui a enlevé de ses souillons. Là, il y a des petits âges, 66 ans.
Oh,
et c'était un Hatsum de Hatsum. Lui, quand un chien est venu le voir, il dit qu'il était la famille telle et telle, il était capable de le relier à des personnes de la même famille que lui, il ne connaissait pas. Et moi, il connaissait les livres de tout ce monde-là.
Et il y a combien de temps?
Longtemps, ça.
Et ça, il y a 30 ans. 33 ans.
C'est le père de Rabbi David.
Peut-être, je ne sais pas.
Qui est Rabbi David? Rabbi Mordechai Sharabi, on raconte de lui que lorsqu'il était pendant la milchemet de Yom Kippour, d'accord, la guerre de Kippour, les gens étaient affolés. C'est toi qui disais qu'en Israël, les gens, ils parlent, il y a beaucoup de rumeurs à gauche, à droite, ils savaient, comme c'était la guerre, il y avait plein de jeunes qui étaient partis sur le front. Et quand la guerre était terminée, c'était l'angoisse. Est-ce qu'on va revenir dans quel état, allongé, assis dans une chaise roulante, etc. Et tout le monde allait voir Mordechai Sharabi. Et Rav Sharabi lui dit, toi, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Toi, il va revenir demain. Lui, dans 3 jours. Lui, dans 4 jours. Exactement les jours qui étaient dits par Rav Mordechai Sharabi, le soldat revenait à sa maison et revenait dans bon état, etc. Donc, il avait une Ruach HaKodesh. On raconte de lui, Rav Mordechai Sharabi, que pour atteindre ces niveaux pendant 7 ans, il a fait Ta'anit tous les jours, sauf Shabbat évidemment. Et pendant 7 ans, Ta'anit, pour lui c'était Ragil, il s'était habitué. Il mangeait pas le midi, et il faisait Ta'anit, il mangeait que le soir.
Et Rabbi Meir a vu, il
faisait F-sec.
Quand il était décédé Nasser, chez moi, il montait derrière lui, qui est Sadat. Il a dit, tu sais Sadat, tu peux pas voir les Juifs. Il a dit, quel que soit, moi je peux vous dire, celui-là, c'est celui-là qui va faire la paix avec Israël.
Comme quoi, hein? Les rois HaKodesh. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Rav Mordechai Sharabi? Oui, alors, sa femme Léa, Rabbanit Léa, elle était très 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 proche de son mari au niveau de ce qu'il faisait. Et on dit qu'elle l'aidait du matin jusqu'au soir à faire le nécessaire pour que son mari ne perde pas une minute dans le niveau de la Torah. Elle se réveillait pour le Tikkun Hatzot. Elle se levait presque avant lui pour lui préparer le café. Le café, c'était pas le café d'aujourd'hui avec des graines et tu mets ça dans l'eau et tout de suite, au bout de 3 minutes, tu as ton café chaud. Avec... Il fallait prendre le café, il fallait le moudre, il fallait le faire cuire, le mettre dans le four. Il fallait après le faire bouillir l'eau. À l'époque, il fallait mettre le gaz, allumer la machin. Elle mettait pour son café, au moins une heure. Une heure, il fallait pour faire un café. Mais le café était toujours prêt au moment pour le Tikkun Hatzot de son mari. On raconte de Rav Mordechai Sharabi qu'il avait une grande fierté de Rav Ovadia Yosef, qu'il, à chaque fois qu'il venait le rendre visite, il, comme un mélèche, il le recevait dans sa yeshiva, Nar Shalom, et il donnait toujours des rémazim sur Rav Ovadia Yosef, qui était marqué dans le Zohar, des rémazim et des rémazim. Et à un moment donné, on s'est aperçu que Rav Mordechai Sharabi connaissait Be'al Pe, tous les Yabbi'a Omer, que Rav Ovadia Yosef, et il lui a dit, j'ai reçu Kabbalah Mina Shamaim, que les Yabbi'a Omer et les Sfarim de Rav Ovadia Yosef ont été maskim dans le Beit Din Shel Mala. Le Beit Din Shel Mala, il a accepté tous les Sfarim et le Psakim de Rav Ovadia Yosef. Ça, c'est des Rav Mordechai Sharabi qui avaient senti ça, Bashamayim. Donc, Bezrat Hashem, Kakosh Bokhu nous permet de suivre son chemin.
Il était contemporain de Rav Kadouri.
Oui. Rav Kadouri a vécu beaucoup plus de temps.